Donc là, voilà, c'était le Conjunto de Tambores Bata de Amado Díaz Alfonso. C'était enregistré chez lui en novembre, le 20 novembre 84, par Maria Elena Vinuesa.
Et comment dirais-je ?
Amatanzas, pardon.
Amatanzas. Mais cette religion afro-cubaine, elle est prépondérante à Cuba, nous le disions. Et nous savons aussi qu'elle n'est pas, elle n'est pas circonscrite à Cuba, puisque la pratique, sa pratique est de par le monde, partout. Puisque c'est, il n'y a pas, disons, une sorte de recentrage nécessairement sur Cuba. Ça peut être, des gens peuvent pratiquer cette religion à New York, et dans toutes les capitales du monde où il y a des Cubains ou des Afro-Cubains, mais aussi ça peut franchir beaucoup plus, cette religion peut être présente, c'est des gens qui ne sont pas nécessairement cubains, puisque dans le fond c'est une religion du monde et elle n'a pas d'ostracisme envers qui que ce soit. Nous savons qu'au Brésil par exemple, beaucoup de gens sont étonnés parfois de voir des gens qui d'apparence sont absolument caucasiens, si je pourrais le dire, ça veut dire blonds, etc., et qui sont absolument épris et enfoncés et dans ces pratiques religieuses et qui ont laissé totalement le capitalisme, le catholicisme, le protestantisme pour se livrer définitivement à ces rites afro-brésiliens d'origine africaine qui de par nature c'est polythéiste, donc il n'y a pas de dogme qui empêche à quiconque de participer. Il suffit de croire et il suffit d'être là et d'être avec, de jouer le jeu, si on peut dire, et il n'y a pas de problème. Oui. C'est ce qui facilite aussi la pénétration. Et sur certains livres, certaines indications que j'avais sur le Brésil, c'est étonnant la diffusion de cet esprit.
Ouais.
Et on le retrouve partout, soit dans les livres d'écrivains, une mention, une allusion à cela, la même chose d'ailleurs à Cuba, soit bien sûr dans la musique, dans les films même, qui font souvent allusion à cet état des choses. Ça veut dire que ce sont des religions, finalement des pratiques qui font partie du vécu quotidien de plus de gens qu'on ne pense, que ce soit au Brésil, en Amérique même du Nord, aussi et dans la Caraïbe. Parce que nous avions dernièrement découvert qu'il y avait des pratiques très, très précises et très claires à Trinidad, où il y avait des rites. Et on pouvait être initié, et ceci avait même été reconnu dernièrement par le gouvernement. Je crois que tu avais lu un
article. Oui, la religion Yoruba Shango, qui est la religion donc Yoruba qu'on retrouve aussi à Cuba, avec peut-être des petites différences, je ne connais pas très bien, a été effectivement accédé à un statut officiel par la reconnaissance du gouvernement de Trinidad. Et par
au début de cette année.
Oui, et puis avec un terrain qui leur a été alloué.
Pour la pratique.
Donc là, donc c'est une religion officielle.
Officielle maintenant. Officielle. Et justement, à ce propos, on peut dire que la religion catholique dans son ensemble, étant, qu'on le veuille ou pas, grande complice du système en place, et sur lequel on pourra appliquer les adjectifs que l'on veut, chacun est libre de le faire, en tous les cas, a toujours été, voué acharné contre ces religions, les a diabolisés en quelque sorte, et bien sûr bien souvent avec l'appui des États, de la politique, pour pouvoir en nier l'existence. Mais comme il y a un très beau dicton américain qui dit, tu peux enlever l'enfant du pays, mais tu peux pas enlever le pays de l'enfant. Donc je pense que ça a été voué à l'échec, puisque nous le savons, et comme nous le disions tout à l'heure, de plus en plus, la présence de cette dimension religieuse s'affirme, et dans tous les actes culturels, particulièrement. Et tous les artistes qui sont en fait des sortes d'élégois, ce sont des passeurs. Et je crois que même cette notion dans les cercles intellectuels français en ce qui concerne la littérature, et les grands écrivains, les poètes en fait ne sont que des passeurs. Ils traduisent pour l'ensemble quelque chose de pour certains disent divin, mais nous le dirons nous plus simplement spirituel ou cosmique. Donc cette présence est de plus en plus forte et affirmée et démontrée. Musique.
Oui, là on pourrait peut-être, on va écouter le premier morceau donc du disque de du troisième disque d'Ilu Yankori. On pourrait peut-être dire rapidement un peu, décrire un peu pour ceux qui ne connaissent pas ce qu'on a entendu tout à l'heure où il n'y avait que les tambours, donc les tambours bata, il y avait trois tambours là qui jouaient, le konkolo un petit, le plus petit, l'itotele le moyen et l'ia le grand. Le konkolo exécute qu'on peut appeler une figure rythmique stable, enfin identique, une sorte d'ostinato qui peut se décliner de manière différente avec des petites variations qu'on appelle des fleurs, des floreos. Et l'itotele, lui, et l'ia sont en véritable conversation et la mélodie que l'un et l'autre. La mélodie qu'on entend quand l'ia et l'itotele jouent. Donc c'est une mélodie où les rythmes de chacun s'interpénètrent. Et donc ça donne lieu également à des conversations. L'IA, par exemple, peut lancer faire une variation, et à telle variation va correspondre une réponse de l'itotele. Un appel également qui initie le rythme. Le deuxième bruit qu'on a entendu à Elegua, on l'appelle communément échou. Voilà, donc c'est cette idée d'interpénétration et d'intrication de ces trois rythmes, de ces trois formules rythmiques exécutées ensemble qui donnent cette mélodie. On va donc là écouter le premier morceau de Ilu Yankori, Mariwo, qui est à Osain.